Madame, Monsieur, bonjour. Dans le monde méditerranéen, la période antique s'avère fertile en création de villes mémorables. Jérusalem, Rome, Marseille, Alexandrie, Constantinople sont parmi les plus emblématiques. L'ouvrage publié par la Documentation française récemment dans la collection Récits primordiaux, intitulé « Fondation de ville », nous raconte la fondation ou la refondation de ces cinq cités. Des récits où histoire et mythes sont intimement mêlés. Notre chronique, lue pour vous à la Documentation française, est consacrée à ce livre de Christophe Badel, professeur d'histoire romaine à l'Université de Rennes, qui nous propose un voyage dans l'espace et dans le temps. Pour évoquer aujourd'hui ce thème de la fondation des villes, et plus particulièrement celle de Rome, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Canal Académie Monsieur Dominique Briquel, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien du monde romain, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Dominique Briquel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Pour moi, c'est tout à fait agréable de parler de quelque chose qui m'intéresse, sur lequel je travaille et d'essayer de faire partager un peu ce plaisir.
Nos auditeurs vous connaissent puisque vous avez déjà fait plusieurs émissions sur notre radio. Vous êtes un éminent spécialiste du monde étrusque et des débuts de l'histoire de Rome auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Dans ce recueil « Fondation de ville », nous trouvons l'histoire de la fondation de Rome par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. L'ouvrage la resitue dans le contexte historique de cette époque. Il évoque aussi un second temps de la fondation de Rome, qui est l'épisode de l'enlèvement des Sabines. Dominique Briquel, que penser du mythe de la fondation de Rome ? La légende des jumeaux Romulus et Rémus abandonnés et allaités par une louve est-elle une fiction, un récit merveilleux ou a-t-elle une part de réalité ? Qu'en pensez-vous ?
Alors, la question que vous me posez, s'agit-il d'une réalité ou d'une fiction ? En fait, ça taraude les esprits depuis extrêmement longtemps, puisque déjà dans l'Antiquité, certains esprits, je dirais simplement réalistes, avaient du mal à admettre que des petits-enfants abandonnés au bord du Tibre aient pu être allaités par une louve. Alors, ils s'en tiraient par des histoires un peu abracadabrantes. Il se trouve qu'en latin, le terme « lupa », qui veut dire la louve, désignait aussi une prostituée. Si bien qu'ils avaient imaginé une histoire comme quoi la personne qui les avait recueillis à l'été, bien sûr, n'était pas une louve, mais aurait été une jeune femme qui exerçait ce genre de métier.
Est-ce que ce récit mythique de la fondation de Rome, avec tout ce qu'il comporte, les différents aspects, les différents épisodes, après l'allaitement, jusqu'à la fondation de Rome par Romulus, est-ce que ce récit a été confirmé par les historiens ? Est-ce qu'il n'est pas remis en question par certaines découvertes archéologiques ?
Bien sûr, il y a plusieurs aspects. Déjà, le récit en tant que tel, c'est de la légende. Maintenant, bien sûr, on n'explique pas les composants d'une manière aussi simpliste que le faisaient les anciens avec cette histoire de prostituées, mais on repère bien qu'il y a un certain nombre de thèmes légendaires qui sont tout à fait classiques et qu'il ne peut pas y avoir une histoire réelle derrière. Par exemple, le fait que deux jumeaux interviennent. Des histoires de jumeaux, vous en trouvez partout. Il y a les Dioscures en Grèce, il y a beaucoup d'autres jumeaux, Amphion et Zétos, Pélias et Nélée, etc. Bon, si on regarde la Bible, il y a aussi des jumeaux bibliques, Caïn et Abel, ou d'autres encore. D'autres thèmes qui interviennent, l'allaitement par la louve. Pour nous, c'est ce qui est le plus connu dans la légende peut-être de la fondation, des enfances de ces deux jumeaux, mais en réalité, si on va chercher les légendes qui existent par le monde, il est extrêmement fréquent que le futur héros soit abandonné dans le monde sauvage et paradoxalement, au lieu de périr, reçoive l'aide d'un animal qui vient le nourrir ou qui vient l'allaiter. Ça a tout simplement comme signification l'idée que, alors que normalement il aurait dû périr, les dieux viennent à son secours et viennent le secourir de cette manière-là. Pour prendre un exemple, vous connaissez sans doute la légende de Geneviève de Brabant qui aurait été allaitée par une biche. J'ai fait allusion à des légendes de jumeaux grecs. Ils sont allaités par toutes sortes d'animaux, quelquefois une vache, quelquefois une chienne, quelquefois une jument, etc. Donc là aussi, c'est des thèmes légendaires tout à fait courants.
Et symboliques.
Oui, c'est ça. C'est symbolique. Alors, l'autre question qui, bien sûr, se pose par derrière, même si le détail du récit, c'est de l'invention, c'est de la légende, bah, qu'est-ce qui a pu se passer réellement? Est-ce que la manière dont on a raconté cette histoire-là n'aurait pas servi, au fond, à raconter une histoire réelle? Raconter quelque chose, exposer quelque chose qui se serait passé vers cette époque-là. Autrement dit, est-ce que on peut considérer que, comme nous le dit la légende, bah, il y a eu l'émergence de quelque chose qui était, au fond, déjà, au moins d'une manière embryonnaire, qui était la future ville de Rome que nous connaissons.
Alors justement, quelle est la part du savoir et de l'histoire et quelle est celle de l'imaginaire et de la tradition au regard des découvertes archéologiques, notamment dans les années, je crois, 80
Oui, alors vous faites allusion justement à l'apport de l'archéologie, parce que la question est toujours celle-là. Est-ce qu'on peut trouver une correspondance entre, d'une part, ces récits traditionnels que Tite-Live et les autres historiens nous font connaître, mais aussi avec ce qui est des apports, bah forcément nous renvoyant aux réalités concrètes de cette époque-là, et ce que les archéologues ont fait allusion à des découvertes effectivement récentes, et il y a eu des fouilles remarquables qui ont été faites à Rome, et en particulier sur le site du Palatin, cette colline qui, d'après la tradition, était la colline même où la Rome primitive a été fondée. Et un collègue archéologue italien, Andrea Carandini, a trouvé une muraille qui daterait à peu près du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Je vous rappellerai simplement que la date traditionnelle de la fondation est de 753 avant Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça correspond à ce que nous raconte la légende? Dans une certaine mesure, il est possible que, parmi les éléments constitutifs de la légende, il y ait malgré tout un certain souvenir d'une réalité historique.
Est-ce que d'autres aspects de cette légende, la légende troyenne, puisque Romulus et Rémus ont des origines, je crois, descendent d'aînés, etc., est-ce que tout cela est plutôt aussi de l'ordre du mythe?
Alors, vous faites allusion à la légende troyenne, et justement, je trouve ça un cas intéressant. Parce que la légende de Romulus et Rémus, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Bon, dans le détail, c'est assez compliqué, parce que la légende nous dit que Rome aurait été fondée à un endroit où il n'y avait rien, autrement dit, il serait un surgissement soudain à partir du monde sauvage. En réalité, c'est plus complexe, il semble qu'il y avait déjà quelque chose, et que s'il s'est passé quelque chose vers le milieu du 8e siècle, ça a été une réorganisation ou une organisation de quelque chose de nouveau qui allait déboucher à terme sur la cité. Alors, la légende troyenne, c'est un peu autre chose. Il faut se replacer un peu dans l'esprit de ces gens-là. Ben, même les Romains étaient nourris de culture grecque et omnibulés par la culture grecque. Et au fond, le texte de base, c'était l'épopée homérique. C'était l'Iliade et l'Odyssée. Il ne faut pas oublier que les jeunes Grecs apprenaient, quand ils étaient à l'école, je dirais dans les classes du primaire, apprenaient déjà les vers d'Homère. Et même pour les Romains, la première œuvre de la littérature latine, qui d'ailleurs avait été composée par quelqu'un d'origine grecque, Livius Andronicus, était une traduction en latin de l'Odyssée. Donc pour eux, c'était en quelque sorte la grande référence littéraire, et ils n'ont eu de cesse que de se raccrocher aux origines troyennes. Mais de la pensée que des Troyens soient venus un beau jour sur les côtes du Latium et fondé d'abord Lavinium, ensuite Albe, et que leurs descendants aient fondé Rome, bien sûr, là, je ne crois pas qu'on puisse prendre très au sérieux.
Jusque-là. Alors, un second épisode de la fondation de Rome est raconté dans cet ouvrage, celui de l'enlèvement des Sabines. Alors, pourquoi cet épisode? Est-ce que ce mythe repose sur un fond de vérité et comment l'interpréter?
Alors, l'enlèvement des Sabines, on peut le prendre de différentes manières. Bien sûr, il y a eu toutes sortes d'explications qui ont été proposées. J'en prendrai une simple, qui est que, au fond, par certains aspects, ça sert d'éléments étiologiques, c'est-à-dire d'explications, à certains aspects du rituel romain du mariage. Lorsque un Romain faisait entrer sa jeune épouse dans la maison, ben, il la prenait dans ses bras, il lui faisait franchir le seuil, et on disait qu'il ne faisait que reproduire ce que les Sabins avaient fait. Alors certains ont même supposé qu'il y avait eu une forme de mariage par rapt, donc avec enlèvement et violence dans l'Antiquité. Ça n'est peut-être pas impossible, en tout cas on ne peut pas le prouver. D'une manière, disons, plus fondamentale dans l'équilibre du récit légendaire, on voit bien que ce qui justifie l'enlèvement des Sabines, c'est que Romulus et son compagnon sont uniquement des hommes, et Tite-Live le dit très clairement, ça veut dire que ça ne va durer qu'une seule génération et qu'ils ne pourront pas continuer dans le temps, à travers l'histoire, à travers plusieurs générations. D'où ce besoin de femmes. Au fond, il y a ce côté assez sympathique du récit, qui est que même une société tout à fait guerrière, qui voulait fonder sur la force des armes comme les Romains, a été obligée de reconnaître que sans femmes, ils ne pouvaient pas continuer.
Donc ce mythe nous dit sans doute quelque chose aussi sur peut-être la condition des femmes à Rome, dans la cité.
Oui, alors à la fois les femmes ont droit à des tas d'honneurs, bon, la fameuse matrone romaine. On dit par exemple que les noms des curies, enfin d'une des subdivisions de la Rome la plus ancienne, étaient ceux des Sabines qu'on avait enlevés. Cela étant, sur d'autres plans, la femme romaine n'avait pas tellement de droits. Il ne faut pas oublier que certains textes nous disent que si une femme buvait du vin, elle était passible de la peine de mort. D'ailleurs, les Romains, une explication amusante à propos de ça, a donné une de leurs coutumes. Les Romains, ça surprenait les Grecs, qui n'avaient pas tout à fait les mêmes habitudes, pouvaient embrasser les femmes de leur parenté sur la bouche. Donc, ça semblait tout à fait bizarre, et ce qu'on avait trouvé comme explication, c'est que c'était un bon moyen de savoir si les femmes en cachette avaient bu du vin, puisque si on les embrassait sur la bouche, bien sûr, on voyait ce qu'il en était.
Que nous disent aujourd'hui ces récits, au fond, sur l'Antiquité? Ça sera peut-être notre conclusion.
Alors, précisément, le récit de Romulus et Rémus, dans un sens, c'est un peu un problème, parce qu'il y a des côtés tout à fait choquants. Voir que le fondateur d'une cité aussi importante que Rome, bon, d'une part, il a enlevé les Sabines, à la rigueur, on pourrait considérer que c'est presque un péché véniel, mais il ne faut pas oublier qu'il est le meurtrier de son frère. Puisqu'il y a eu cette bagarre entre les deux frères, chacun voulant que ce soit lui qui soit le fondateur de la cité, et s'aboutit vraiment à ce qui est le plus impensable, le plus grave comme crime, le meurtre d'un frère par son frère. Et c'est quelque chose, visiblement, qui gênait les Romains, donc on voit bien qu'ils ont essayé d'édulcorer le récit en disant que, bon, c'était pas Romulus qui avait tué son frère, que s'il l'avait fait, il ne l'avait pas fait exprès, etc. Donc, même pour eux, il y avait quand même une difficulté d'appréhender ce type de mythe, qui forcément a des côtés assez effrayants. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a une sorte de passage d'un monde ancien à un monde nouveau et que ça se produit nécessairement et inévitablement par de la violence. Mais bien sûr, les Romains avaient du mal à admettre que leur fondateur était un criminel et à l'époque des guerres civiles, plusieurs auteurs nous disent « Oh là là, mais ça n'est pas étonnant, si nous vivons tant de malheurs et tant de difficultés, c'est parce que nous avons cet art originel derrière nous. »
C'est ça, une sorte de péché originel.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, qui est attaché à la naissance de Rome et ainsi naquit Rome dans la violence. Dominique Briquel, merci pour cet éclairage et à bientôt, j'espère, sur les ondes de Canal Academy. Et je conseille à nos auditeurs, bien sûr, d'écouter vos émissions sur les Étrusques et sur Rome et les Gaulois.
Merci beaucoup.
À bientôt.